C'est la découvrir aussi d'une façon insolite. Thierry Breyer. Vous préférez laquelle?
Breyer.
Thierry Breyer. Et notre invité là, un accent vraiment très aixois. Comment ça va, Thierry?
Très très bien, merci.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers quand même qui sont parmi nous, il faut dire.
Et surtout moi, déjà, qui suis là que depuis une trentaine d'années, donc je suis arrivé récemment finalement.
Et finalement, c'est bel et bien cette ville qui vous passionne, que vous avez envie de découvrir d'une façon insolite.
Et définitivement, oui.
Ouais, on va se balader de quelle façon? Expliquez-nous.
Remettre les pendules à l'heure aixoise, vous savez qu'ici il y a le quart d'heure aixois, donc on est toujours un petit peu en retard sur les choses. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques fausses vérités qui circulent, donc on va essayer de les remettre au quart d'heure après à la vérité.
Alors, tenez-vous prêt dans quelques instants, vous allez être surpris aussi par ces infos que nous allons divulguer, qui évidemment vont nous passionner et surtout nous intéresser. C'est sur France Bleu Provence, après le groupe Pink Floyd. Et on ne s'en lasse pas, Pink Floyd, sur France Bleu Provence. La
La vie en bleu,
en balade avec France Bleu Provence.
Partout au cœur de toute la Provence, de Marseille à Toulon, passant par Aix, les Alpes d'Haute-Provence, les Hautes-Alpes. Nous sommes à Aix-en-Provence dans un instant avec notre invité. On revient aussi sur les conditions de circulation. On suit de très très près les bouchons en cours encore d'actualité en cette matinée. On nous signale à l'instant qu'en direction d'Arles, il y a un gros bouchon au rond-point La Fossette. On vous propose un point en détail dans un instant et ça bouchonne sérieusement aussi à la hauteur de Septèmes-les-Vallons en direction des Pennes-Mirabeau.
France Bleu. France Bleu Provence vous invite à l'Omega Live de Toulon pour deux soirées exceptionnelles. Le 15 décembre, venez découvrir un nouveau concept d'improvisation théâtrale avec de la musique live et un format inspiré du rugby pour encore plus de plaisir. Le 21, rendez-vous avec le Comedy Club de Toulon, un plateau d'humoristes garanti 100% fada. Venez vivre deux grandes soirées d'humour à l'Omega Live de Toulon les 15 et 21 décembre. Gagnez vos invitations avec France Bleu Provence.
France Bleu Provence, émission spéciale.
À la veille d'un quatrième samedi de colère des Gilets jaunes, France Bleu Provence continue le débat. Ce vendredi soir, entre 18h15 et 19h, prenez la parole.
Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre.
Pour débattre avec vous, Alain Cargani, président de la CGPME, Hervé Vaudois, journaliste, et un représentant des Gilets jaunes d'Aix-en-Provence. Émission à suivre aussi sur le Facebook Live de France Bleu Provence et France 3 Provence-Alpes. Comment sortir de la crise des Gilets jaunes, c'est vendredi soir entre 18h15 et 19h.
France Bleu présente le Bagad de l'Anbiway en tournée dans toute la France en 2019 pour son 65e anniversaire. Le Bagad de l'Anbiway, nouveau spectacle, 30 musiciens sur scène, 2 heures de concert. Les airs les plus célèbres de la musique bretonne et celte. Le Bagad de l'Anbiway. La tournée anniversaire, une tournée France Bleu. Et le 13 avril à Paris, au théâtre Le 13e Art. Toutes les infos sur FranceBleu.fr.
Remettre les pendules à l'heure aixoise, voir la ville d'Aix autrement avec l'aixois Thierry Breyer. Et je salue votre site au passage. Un retour sur les fausses vérités que nous allons donc vous proposer d'écouter sur France Bleu Provence. Mais tout le monde peut être intéressé pour découvrir quelque part un peu notre patrimoine pour cette jolie balade. Alors Thierry, on va s'intéresser pour commencer, puisque vous êtes notre invité et expert aussi, parce que vous l'aimez par-dessus tout depuis 30 ans, cette ville d'Aix-en-Provence. On va essayer de dénicher la plus petite rue d'Aix-en-Provence. Quelle est-elle?
Eh bien justement, il est de notoriété publique de dire que c'est la rue Esquichot-Coudet. Esquichot-Coudet parce qu'effectivement elle est très étroite et on ne peut pas se croiser sans se toucher. Mais en réalité, il faut définir ce que veut dire petit. Petit, ça veut dire étroit dans ce cas-là. Mais en longueur, ce n'est pas celle-là. Il y a une rue qui est beaucoup plus courte. La rue Esquichot-Coudet fait 39 mètres de long. Mais il y a une rue beaucoup plus courte qui est la rue de la Baratanque. La rue de la Baratanque, elle donne entre la place Richelm et la rue Méjeanne.
Et elle fait combien?
Elle fait que 19 mètres de long. Alors, évidemment, la nouveauté, c'est que depuis quelque temps, elle était un peu fermée. On a l'impression que c'est une voie privée, mais c'était surtout pour éviter qu'elle serve d'urinoir, je pense. Mais c'est celle-ci qui revient à la palme de la plus petite, du moins en longueur, rue d'Aix, la Baratanque.
Eh bien, c'est noté. Autre curiosité aussi, comment ne pas parler d'Aix-en-Provence et de Cézanne, bien sûr. Tout à l'heure, je faisais allusion à l'accent aussi de celles et ceux qui ont retrouvé cette belle cité du roi René. Cézanne et Roualferrand, que pourrions-nous en dire?
Eh bien, justement, que Cézanne n'avait pas l'accent. Ah, alors, oui. Pas l'accent aixois, mais plutôt l'accent aigu. Il est fréquent, effectivement, de le voir écrit de partout avec un accent sur le E de Cézanne. En fait, EZ, ça fait déjà E, donc c'est pas nécessaire de rajouter un accent. D'ailleurs, sur ses tableaux, il signe toujours Cézanne, C-E-Z, et pas avec un accent aigu. C'est la même façon pour Roualferrand, qui est connu comme l'historien effectivement de référence du 19e siècle à Aix-en-Provence. On dit bien Alferrand, mais il n'y a pas d'accent non plus sur le E. Et souvent, on le voit écrit. Il n'y a que lui qui l'écrivait sans accent. D'ailleurs, c'est la Saint-Ambroise aujourd'hui. Et c'est amusant parce que fréquemment, on ne sait pas comment le prénommer. En fait, il avait un prénom triple, pas double, François-Ambroise-Thomas. Et d'après les recherches que j'ai pu faire, ce sont les seuls vrais prénoms qu'il a. Et ils doivent être collés tout à fait à chaque fois ensemble. Alors, on a François, on a Thomas, on a Ambroise, on a les accents. Voilà, il s'appelle François-Ambroise-Thomas Roualferrand. C'est compliqué.
Oui, et donc les grands noms d'Aix-en-Provence, et comment ne pas parler de ce cardinal ô combien célèbre, donc tout le monde connaît bien sûr, c'est Mazarin, et il y a le quartier Mazarin.
Et oui, il y a le quartier Mazarin qui a été construit à partir de 1651, lorsque les remparts qui étaient sur le précédent cours ont été démolis. Alors 1651, c'est facile parce qu'il y a une borne hein, en haut, avant la fontaine du Roi-René qui en parle, mais effectivement Mazarin, il ne faut juste pas le confondre avec son frère. Lui aussi était cardinal, effectivement, mais il s'appelait Michel Mazarin. Le frère, c'était Jules, celui qui était avec Louis XIII et Louis XIV.
Dites-moi Thierry, de quelle façon doit-on visiter cette cité du Roi René, cette ville d'Aix-en-Provence selon vous? Il y a plein de circuits touristiques organisés par l'office de tourisme, bien sûr il y a plein d'autres possibilités aussi de revisiter l'histoire d'Aix-en-Provence.
Oui, tout à fait, il y a des guides qui sont déjà bien installés comme Jean-Pierre Casselli, Frédéric Paul, etc. qui font d'ailleurs souvent des visites beaucoup plus thématiques, parce que moi je fais des visites avec les scolaires et je me suis rendu compte que c'est compliqué de faire une visite chronologique. Parce qu'une ville,
c'est pas assez ludique, quoi.
Voilà. Et puis surtout, ça se développe pas chronologiquement au départ, si, comme un escargot, mais ensuite. Alors, ce qu'on essaye, c'est de trouver des thèmes, effectivement, notamment sur Aix au 19e, c'est les grandes valeurs de la République, justement, après la défaite de 70, la défaite de Sedan, c'est les retours aux valeurs, aux symboles, aux métaphores, enfin, tout ce qui peut y avoir, aux allégories. D'ailleurs, on les a avec les statues de Truffem à l'entrée. On va l'avoir aussi, même si c'est un peu construit avant, avec la fontaine de la Rotonde, etc.
Bien sûr.
Toutes ces belles valeurs qui vont faire que bah, les petits Français, avec l'école de Jules Ferry et puis Jules Michelet, vont pouvoir effectivement à un moment donné être prêts pour la guerre de 14-18 en fait.
Merci, bien on va continuer un petit peu sur les pas d'Aix-en-Provence pour mettre toutes ces pendules à l'heure et découvrir autrement tous ces quartiers, même si vous ne les connaissez pas, et bien ce serait peut-être l'occasion de les visiter. Dans un instant, la suite avec notre invité Thierry Brière, 9h15. Sur France Bleu Provence.
La vie en bleu. Les plus beaux lieux de la région sont sur France Bleu Provence.
Et on revient sur les conditions difficiles, on le rappelle, sur la route du collège, voire sur la route du lycée. Vous étiez très encombré, le lycée Marie Curie à Marseille, avec des poubelles enflammées. Les pompiers étaient sur place tout à l'heure, une circulation toujours difficile dans ce secteur. Frédéric nous a confirmé à 9h que Clé Sud était débloquée par les CRS et donc ça roule. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En direction d'Arles, en revanche, nous avons toujours des difficultés avec un gros bouchon au rond-point de la Fossette à Arles, encore une fois, depuis hier, avec ses nombreux ralentissements. Quelle est l'évolution de la situation en direction d'Arles? Apparemment, nous avons toujours 4 km de ralentissement et c'est en gros quand même, selon Waze, partenaire de France Bleu Provence, 56 minutes de ralentissement prévisionnel. Marie nous a signalé un bouchon juste avant le péage de l'ensemble de Provence dans le sens Lyon-Marseille, effectivement confirmé avec 1,5 km de ralentissement. Est-ce un barrage filtrant peut-être avec les gilets jaunes? Si vous faites partie de ce mouvement, si vous rencontrer des difficultés, vous, usagers de la route, et bien vous nous appelez au 04 42 38 08 08. On reste dans le secteur des Bouches-du-Rhône, à la hauteur donc de Port-de-Bouc et de Fos-sur-Mer, et ce dans les deux sens où nous avons des difficultés de ralentissement, et puis nous avons aussi quelques soucis du côté de Septem-les-Vallons et des Pennes-Mirabeau, hein, depuis tout à l'heure en direction de Vitrolles. C'est en train de s'arranger, mais tout doucement, au fil des minutes, à partir du convergent donc de la 55 et de l'A7 sur Marseille. Conditions acceptables sur le réseau autoroutier, alors je vous parle, c'est même dégagé et fluide sur l'autoroute Nord, la 55 et la 50, voilà ce que l'on peut dire. On a des difficultés en revanche, c'est certainement le péage de la Ciotat, une nouvelle fois ciblé là aussi avec un ralentissement quand vous arrivez donc de Marseille en direction de Toulon. Et puis sur Toulon justement et dans la proche périphérie toulonnaise, nous avons de bonnes conditions de circulation. Ralentissement inhabituel en revanche entre la Londe et Bormes-les-Mimosas. Si vous avez des infos complémentaires, 04 42 38 08 08. Et pour être très complet donc sur ce point, toujours les difficultés à la hauteur donc de Vidoban en direction du Muy, à la hauteur des Arcs entre autres, hein, sur la Nationale qui longe la DN7, hein, qui longe l'axe autoroutier de la 8, où là c'est carrément encombré, et ce dans les deux sens.
On fait la route ensemble sur France Bleu Provence.
France Bleu Provence vous invite au cinéma. Il tombe plus vite amoureux de ses gendres que ses filles.
Le meilleur joueur de rugby de l'université. Et bientôt mon gendre.
Le gendre de ma vie. Un film France Bleu avec Cadmerade, Pauline Etienne, Julie Gaillet. Avant-première du film, ce dimanche 9 décembre à 18h au Pâté Plan de Campagne. Vos invitations à gagner sur France Bleu Provence.
Salut, c'est Arnold Derek. Le Téléthon, vous le savez, c'est l'affaire de tous. Alors pour faire vos dons, surtout n'oubliez pas de composer le 3637. Merci pour eux.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Mathilde Sénac, à Coiras, dans les Pyrénées-Atlantiques, nous dit pourquoi.
Nous, on y va parce qu'on a toujours été très bien accueillis, très bien conseillés. Tout le monde a toujours été à l'écoute. Et puis, ce que j'ai apprécié surtout, c'est qu'ils fassent une prise de mesure très précise. Moi, ça me rassure quand on me l'a fait, parce que je sais que les lunettes qu'ils vont me faire vont correspondre réellement à ce dont j'ai besoin. Et puis, mon opticien m'a fait bénéficier de l'objectif zéro dépense. Et c'est vrai que ça, c'est bien aussi.
Hugo Larouille, l'opticien Optique 2000 de Mme Sénac, à Coiras.
Pour nous, le plus important, c'est que notre client se sente bien dans notre magasin et bien sûr, de lui proposer l'équipement le plus adapté à ses besoins. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous nous occupons de tous les papiers.
Alors, Madame Sénac, contente d'Optique 2000?
Oui, complètement. Mais en plus, ils ont tout géré pour moi.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
France Bleu Provence.
Sélection musicale de notre émission d'ailleurs musicale qui a pour nom Layo Live, c'était French Fuse sur France Bleu Provence. Juste un tout petit mot sur la dernière info côté circulation, on ne s'en prive pas quand ça tombe à tout moment de la journée sur France Bleu Provence. Le bouchon que j'annonçais juste avant le péage de l'ensemble Provence, c'est habituel dans le sens Lyon-Marseille, n'est pas dû à la présence de gilets jaunes dans la France, mais certainement à des problèmes techniques. Nous vous tenons au courant.
Je vais bien, tout va bien. Vous avez le moral en ce moment, Thierry.
C'est vrai qu'avec toute cette période un petit peu compliquée que nous vivons, c'est bon aussi quelque part de se replonger au cœur de notre histoire, de s'évader un petit peu et de s'enrichir aussi sur le plan plan patrimonial. La preuve, on peut voir sa ville où que vous habitez en Provence, votre petit village, autrement avec France Bleu Provence. Et on s'intéresse à toute l'histoire de la belle cité du roi René et de ses places. Tiens, avec Thierry Brière qui est notre spécialiste, on l'appelle Lexois et c'est lexois.fr que je vous invite à retrouver si vous désirez en savoir un petit peu plus d'hier, d'aujourd'hui et de demain autour de cette belle cité d'Aix-en-Provence. On aime bien dire le mot cité, vous savez pourquoi la cité du roi René au fait ?
Tout simplement parce que c'est un synonyme de ville et ville c'est quelque chose de très très moderne en fait. La cité, c'est comme ça que ça... La ville, en fait, ça venait de village, c'était vraiment très très ancien. Donc la cité, puis ça fait un petit peu noble, un petit peu bourgeois.
Et à la fois, un mot qui a une toute autre signification aujourd'hui, quand on est dans la cité.
Ah oui, de toute façon, c'est le centre de la ville. Le quartier de la cité à Paris, par exemple, c'est les centres-villes, c'est la création et la naissance de la ville en elle-même.
Et dans toutes les villes, il y a des places. Et dans tous les villages provençaux aussi, la petite place du village. Sauf qu'Aix-en-Provence, c'est une grande ville et qu'il y a plusieurs places. Tiens, on a choisi pour commencer... La place de la Madeleine, écoutez bien.
Alors la place de la Madeleine, effectivement, et on m'en voudrait si j'en parle pas, la place de la Madeleine, grand scoop, n'existe pas. Il n'y a pas de place de la Madeleine à Aix, malgré le fait qu'on voit régulièrement, que ce soit sur les Diablines, dans les journaux, etc., les travaux, la rénovation des trois places. Alors je me suis dit, on va essayer de chercher effectivement ces trois places. C'est la place des Prêcheurs, c'est la place effectivement historique de la ville, et qui va reprendre d'ailleurs sa valeur très très prochainement à la fin des travaux. Et la place de Verdun, ou la place Verdun, qui est en face du palais de justice, qui a été nommée il y a très très peu de temps. Mais la place de la Madeleine, on ne trouve aucune trace, ni dans les livres, dans les recensements, et depuis 1820, 1830, 40, 50, 60, on ne trouve jamais d'habitants à la place de la Madeleine. Donc c'est quand même assez étrange. Et puis savoir où est-ce qu'on la situerait, la place de la Madeleine, on s'est dit, elle serait en face de la Madeleine. Or non, c'est bien la place des Prêcheurs. Tous les commerçants qui sont ici ont aujourd'hui sont cadastrés place des Prêcheurs. Et jadis, ils étaient aussi place des Prêcheurs. Donc ça serait un peu plus bas, vers la Mado par exemple. Non, on en est aussi aux Prêcheurs. Donc il n'y a pas de place de la Madeleine. En fait, la confusion vient du fait que les gens disent souvent, tiens, on va aller à la Madeleine. Donc effectivement, ça colle. Mais on ne va pas à la place de la Madeleine, on va aux Prêcheurs, on va au palais de justice et on ne va pas. Et donc on peut chercher. Mais tranquillement, c'est en train de s'installer puisque les trois places, la rénovation des trois places dans les journaux, etc. Non, il n'y a pas trois places.
Et bien voilà qui est dit. Une autre place qui porte bien son nom, la place du Forum des Quarts d'Heure.
Oui, tout simplement, mais là c'est un peu pour chipoter. En fait, elle s'appelle effectivement la place du Forum des Quarts d'Heure, mais c'est amusant de voir comment les Aixois effectivement s'approprient les noms des rues et ça devient tranquillement la place des Quarts d'Heure. Mais c'est bien la place du Forum des Quarts d'Heure telle qu'elle est nommée aujourd'hui, ainsi qu'elle devrait être nommée. Mais en fait, en réalité, ce sont bien les Aixois qui vont décider du nom des places et du nom des rues. Malgré les décisions officielles des conseils municipaux au 19e et au 20e siècle.
Autre nom très célèbre aussi et pour cause en Provence et notamment Aix-en-Provence, c'est Albertas et il y a la place d'Albertas.
Alors ça c'est amusant cette place d'Albertas puisque peut-être que c'est une des places les plus connues effectivement d'Aix-en-Provence et il est toujours intéressant de souligner que la place d'Albertas est une place privée.
Ah bon ?
Tout simplement en fait elle appartient aux gens qui habitent en l'occurrence, place d'Albertas, mais en l'occurrence aussi, il n'y a pas de place d'Albertas. C'est-à-dire que les numérotations des maisons et des bâtiments qui se trouvent, ce qu'on appelle la place d'Albertas, enfin, en face de l'hôtel d'Albertas, sont bien rue Esparia. Maintenant, si on écrit effectivement aux gens en disant un ou trois places d'Albertas, je pense que ça va arriver. Mais en tout cas, c'est une place privée et c'est pour ça peut-être qu'il y a eu des difficultés à une époque donnée pour faire les ravalements de façades, parce que ce sont les propriétaires qui devaient s'en occuper et surtout s'occuper aussi de la place en elle-même, mais qui est ouverte au public.
C'est une place aussi très symbolique.
Ah, complètement. C'est ça qui est assez le comble, c'est que dans l'absolu, si les propriétaires décidaient de mettre un petit mur et fermer, ils pourraient.
D'accord.
Sans décision.
Et symbolique aussi à travers l'art du cinéma. Parce qu'elle symbolise...
Ah, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et on avait eu l'occasion d'avoir une émission dernièrement.
C'est une place de décor de cinéma.
Ah, complètement. Et nombreux films se sont passés et se passeront encore place d'Albertas. Peut-être qu'après, ça sera les Prêcheurs, parce qu'elle est quand même très grande, cette place, une fois qu'elle sera finie. Mais un film sans la place d'Albertas...
Ce n'est pas un bon film. Si vous regardez un film au cinéma, s'il n'y a pas la place d'Albertas, à l'intérieur, n'y allez pas, n'en parlez pas.
Et en plus, elle n'est pas typée, elle n'est pas 21e siècle, c'est 19e, 20e, donc ça reste quelque chose qui, il n'y a pas beaucoup de décors à modifier pour se mettre d'actualité.
Thierry Breyer, notre invité, pour conclure, toujours sur la place, et pour terminer en beauté, la place Richelme.
Ah, la place Richelme est intéressante aussi, parce que la plupart du temps, il a été demandé que des rues et des places soient données à des femmes, effectivement. On a Irma Moreau, Louise Collet, René Antoine, Jeanne d'Arc, effectivement, mais en ville, on n'avait pas beaucoup de places. Et en fait, parce que, et ça c'était les soucis du 19e siècle, et même au 20e, on ne mettait pas forcément les prénoms devant les noms des personnages. Et donc là, en l'occurrence, la place Richelme, c'est la place Marie-Rose Richelme. Même si le personnage local le plus connu, c'était Louis-Ferdinand Richelme, qui était ténor à Marseille, c'est un grand personnage. Mais en même temps, c'est lui, il a légué ses biens à sa nièce. Sa nièce les a légués à la ville, et avec tout un tas de petites manipulations, le musée que voulait faire la nièce, donc Marie-Rose Richelme, n'a pas vu le jour. Et la ville, pour s'en excuser un peu, a dit, écoutez, on va vous attribuer une place, vous qui êtes bienfaitrice, parce que vous aviez donné un emplacement, d'ailleurs depuis, ce serait plutôt les abattoirs, voire le Pasino, par là, c'est dans ce quartier. Et donc on l'appelle place Marie-Rose Richelme. Donc en fait, une grande place à Aix, avant la prêcheur, c'est bien...